les podcasts de Radio Vatican.
L'avenir de l'État islamique se trouve-t-il en Asie? Alors que le groupe terroriste recule au Moyen-Orient, où il préparerait son retrait dans le désert pour mieux se reconstruire, son activité sur le continent asiatique inquiète. Lundi 27 février 2017, l'organisation terroriste menaçait la Chine dans une vidéo diffusée en langue ouïghour, celle de cette minorité musulmane de l'ouest du pays. Dans le même temps, un groupe ayant fait allégeance à l'État islamique tuait un otage allemand aux Philippines, un autre frappait l'Indonésie d'un attentat à la bombe. Après les attentats de Bali en 2002, les autorités indonésiennes avaient pourtant fait reculer la menace terroriste, mais des groupes extrémistes historiques profitent du dynamisme de l'État islamique en annonçant un ralliement sans réel fondement. Delphine Alès, professeure de sciences politiques à l'Université Paris-Est Créteil, revient sur l'évolution du terrorisme islamiste en Indonésie et dans la région.
Après 2002, il y a un double engagement de la part des autorités indonésiennes qui se mettent en place. D'un côté, une volonté de réprimer les auteurs de violences, donc en se concentrant sur le démantèlement d'organisations terroristes localisées en Indonésie, et en particulier la plus importante d'entre elles qui s'appelait Jemaah Islamiyah. De l'autre, une volonté de mettre en place des stratégies de déradicalisation. Et c'est effectivement à partir du milieu des années 2000 que le gouvernement indonésien commence à la fois à soutenir les organisations de la société civile qui ont une approche plutôt modérée de la religion, en tout cas modérée du point de vue du gouvernement, c'est-à-dire des organisations qui ont une orientation nationale, qui respectent la Constitution et qui travaillent sur le terrain pour promouvoir cette idée de compatibilité entre la religion musulmane et les institutions nationales indonésiennes.
Sur le plan de la répression de la violence, où est-ce qu'on en est? On a vu encore il y a peu un attentat à la bombe, mais ce n'est pas de la même ampleur que ce qu'il y avait il y a une quinzaine d'années.
Il y a eu, je pense, un véritable démantèlement, notamment de cette organisation Jemaah Islamiyah, qui était la plus importante au sein de l'archipel pendant les années 2000. La police indonésienne, associée dans certains cas avec l'armée, a eu une approche qui est très répressive, il faut le dire, avec un certain nombre d'exécutions extrajudiciaires dans le contexte d'arrestations de personnes présumées terroristes. Donc il y a un effort très clair de la part des autorités. L'année 2016, ça a été aussi l'année de la mise en place d'opérations conjointes entre l'armée et la police, ce qui fait craindre à une partie de la société civile une militarisation de la lutte antiterroriste et ce qui fait craindre aussi le renforcement du risque d'exécution extrajudiciaire qui peuvent avoir des effets négatifs dans le sens où ça permet de renforcer le discours de certains extrémistes selon lequel ils sont visés par les autorités et selon laquelle ils ont un traitement particulier. Donc ça peut contribuer à renforcer leur discours de victimisation.
Ces groupes-là, auparavant, ils étaient plutôt historiquement liés à Al-Qaïda. Aujourd'hui, ils se revendiquent de l'État islamique. Est-ce que ça traduit une évolution ou est-ce que finalement, c'est plus peut-être un effet d'opportunité?
Il y a absolument un effet d'opportunité. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie division des groupes qui emploient la violence. Alors, en Indonésie, il y a un certain nombre de groupes violents qui ne se revendiquent pas d'attache internationale, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'emploient pas la violence au niveau local, que ce soit contre des minorités religieuses ou, c'est moins publicisé, mais c'est également très présent en Indonésie, contre des communautés musulmanes jugées déviantes, notamment les Ahmadis et les chiites. Et il y a un effet d'opportunité dans le sens où on peut observer ce qu'on pourrait qualifier de concurrence identitaire de la part de groupes qui sont tous violents, qui prônent tous un discours de fermeture ou de radicalisation, mais certains se positionnent plutôt sur le créneau international, tandis que d'autres restent dans un champ local. Donc, si on compare avec la période du début des années 2000 où Jemaah Islamiyah était l'organisation dominante et avait effectivement des liens opérationnels ou théoriques avec Al-Qaïda, là, on a vraiment observé plus récemment une fragmentation et la question de l'allégeance à l'État islamique a plutôt provoqué des scissions avec quelques organisations, mais minoritaires, il me semble, qui ont fait allégeance à l'État islamique, tandis que d'autres ont préféré conserver une orientation plus régionale.
Et alors ces liens, justement, avec Al-Qaïda avant, maintenant avec l'État islamique, est-ce que c'est un lien idéologique? Est-ce qu'il y a des échanges? Est-ce qu'il y a un appui réel?
Alors c'est toujours très compliqué évidemment d'établir des liens. L'État islamique comme Al-Qaïda sont des franchises, c'est-à-dire qu'on peut y adhérer ou s'en revendiquer sans pour autant avoir de liens très concrets. Ce qu'on observe, c'est le retour de certains combattants qui étaient partis en Syrie, Ça reste très faible. On estime à quelques centaines le nombre d'Indonésiens qui sont partis, quelques dizaines le nombre de ceux qui sont revenus en Indonésie, notamment depuis que l'État islamique enregistre des pertes d'hommes et de territoires sur le théâtre syrien. Donc ce sont plutôt des liens en termes de ressources humaines, je dirais, de personnes qui sont parties combattre et qui sont revenues, comme c'était le cas pour Al-Qaïda avec des vétérans du djihad afghan qui sont revenus ensuite dans l'archipel. Il faut savoir aussi que les autorités indonésiennes ont énormément contrôlé les départs vers la Syrie, donc ça a permis de limiter le nombre de personnes et que ces personnes-là sont, dans de très nombreux cas, appréhendées à leur retour.
On sait qu'il y a aux Philippines, il y a aussi des groupes qui ont prêté allégeance à l'État islamique. Il y a une influence en Thaïlande, un petit peu plus loin aussi, Birmanie, Bangladesh. La Chine a été récemment menacée. Est-ce qu'il y a vraiment une influence grandissante de l'État islamique dans cette région, où finalement les groupes vont un petit peu utiliser l'étiquette État islamique, encore une fois, par effet d'opportunité?
Oui, je pense qu'il y a vraiment cet effet d'opportunité. L'ensemble des pays que vous avez mentionnés sont des pays qui ont de longue date des rébellions partiellement connotées par le facteur religieux et le fait de pouvoir se revendiquer d'une étiquette globale comme celle de l'État islamique ou précédemment celle d'Al-Qaïda permet aussi de publiciser la cause, de l'internationaliser, éventuellement de recruter des combattants qui sont motivés par ce référent et pas nécessairement par les causes locales. Et donc c'est perçu comme une source de revenus, que ce soit financier ou en termes de ressources humaines. Mais les liens opérationnels sont très difficiles à établir. Il y a peu de travaux là-dessus, en dehors de ces retours de combattants qui concernent quelques dizaines de personnes.
Il y a certains groupes qui disent qu'ils veulent faire un État islamique dans cette région qui couvrirait l'Indonésie, la Malaisie, Singapour. Donc selon vous, est-ce que c'est plausible ou est-ce que justement le fait que c'est des conflits régionaux rend cette hypothèse un petit peu compliquée?
Oui, c'est effectivement une vieille revendication, cette idée de créer un État islamique ou un califat nousantarien, c'est-à-dire couvrant les régions majoritairement musulmanes de l'archipel. Il y avait déjà cette idée dans les années 60, mais le fait que certains groupes régionaux aient adhéré ou aient prêté allégeance à l'État islamique, tandis que d'autres préfèrent rester sur un référentiel local ou régional, a plutôt créé des divisions. Et donc cet horizon de l'État islamique nousantarien paraît plus que jamais théorique aujourd'hui.
Un entretien réalisé par Samuel Blény.